À voix nue, cette semaine, Éric Lemasson rencontre Renaud Van Ruymbeek. Ce soir, je voulais juste devenir juge de paix.
Renaud Van Ruymbeek, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir ici chez vous, à Paris.
Je vous en prie.
Vous partagez en ce moment votre vie entre Paris et Rennes.
Oui.
Nous sommes dans votre salon, j'aperçois ici un très beau piano. La musique est importante pour vous pendant toute votre carrière, vous nous l'expliquerez peut-être. Je vous ai appelé Renaud Van Ruymbeek, mais en fait, les Français vous connaissent depuis des années avec le petit préfixe qui précède votre nom. Grand préfixe, votre fonction, votre titre, le juge Renaud Van Ruymbeek, souvent à la une des flashs d'information, un nom qui sonne comme un symbole, tant vous semblez incarner cette fonction d'enquêteur anticorruption. Alors, vous qui aimez la musique classique, ça fait quoi d'être devenu quasiment une sorte de rockstar de la justice ?
D'abord, je ne suis pas une rockstar de la justice, parce que la discrétion me paraît fondamentale. L'étiquette du juge, oui, j'ai été juge par fonction toute ma vie, mais j'ai une relation ambivalente avec la notion de juge, de magistrature, de robe, de tout ça. Je me sens plus citoyen que juge.
C'est l'homme derrière la fonction qui vous a le plus importé tout au long de votre carrière.
Oui, et le souci de la justice.
Pionnier des enquêtes politico-financières, vous vous êtes illustré très tôt, tout jeune magistrat, par un esprit de farouche indépendance, refusant de se soumettre aux pressions des parquets. C'est un peu votre marque de fabrique. Dès l'âge de 27 ans, premier poste, vous n'hésitez pas à mettre en cause un ministre de Giscard, Robert Boulin. Et vous n'aurez de cesse par la suite, lorsque vos enquêtes le rendront nécessaire, d'oser poursuivre des personnalités politiques de premier plan et des puissances économiques et financières réputées intouchables. Votre carrière, ça vous intéressait pas ?
Non.
C'est clair.
Pas à ce prix-là.
Vous avez été souvent mis en cause par les politiques, de droite comme de gauche, qui dénonçaient ce qu'ils appelaient votre acharnement, voire votre partialité à leur encontre. Ça vous a atteint souvent, j'imagine ?
Oui et non, parce que c'est un peu facile. Dès lors que vous êtes en cause, vous dénoncez le juge. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, mais c'est quand même très franco-français.
Parfois, les mots étaient très durs.
Oui, mais ça veut dire qu'on n'accepte pas que la justice enquête sur vous, parce que vous êtes ministre. C'est ça que ça veut dire.
En même temps, le forum politique, c'était leur moyen, leur terrain d'expression. Vous ne pouviez pas parler, mais eux pouvaient...
Oui, d'accord, mais ils peuvent respecter la justice. Ou alors, faut dire, on n'a pas le droit d'enquêter sur des ministres ou sur des partis politiques. Ben, à ce moment-là, faut l'assumer. Mais c'est pas parce que la justice va enquêter sur un parti politique que la justice, elle est partiale. Justement. Elle serait partiale, comme elle l'a été pendant des dizaines d'années avant. C'est l'époque que j'ai connue quand je suis arrivé dans la magistrature, où on n'enquêtait pas sur les ministres et sur les partis politiques. On traitait que les petits, là, les petites mains.
Finalement,
oui, là, on peut y aller, mais pas remonter.
Le principe d'égalité, c'est ce qui vous tient le plus à cœur ?
Absolument. Ça, c'est pour moi...
Puissant ou misérable ?
Oui, parce que je pense que si la révolution française a du sens, c'est celle-là.
Alors nous allons revenir avec vous sur cette formidable carrière de juge d'instruction qui fut la vôtre. Nous allons revenir aussi à sa source, c'est-à-dire à votre vocation, lorsqu'au lycée, vous décidez de devenir magistrat. Mais avant cela... Une petite question sur votre vie aujourd'hui. Vous avez atteint, comme on dit, la limite d'âge. Vous êtes retraité.
N'insistez pas trop.
et vous partagez votre temps entre la Bretagne et Paris.
Bah oui, j'ai plus rien à faire.
Que faites-vous aujourd'hui ? Vous avez été au cœur de tant d'affaires, avec une pression, avec des médias, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un trou d'air quand on s'arrête comme
oui,
ça ?
Oui, bien sûr, il y a un trou d'air. J'ai eu de l'angoisse avant, dans les 6 mois qui ont précédé ma retraite. Appelons les choses par leur nom, il a bien fallu que je prenne ma retraite. J'ai tiré au maximum, parce que j'ai eu plus de 3 enfants, donc j'avais droit à 1 an de plus, donc j'ai été jusqu'à 67 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais arrive un moment où on vous dit, monsieur, vous êtes bien, mais terminé, enfin, vous êtes bien, on vous met dehors, voilà, bon. Donc, j'ai eu une angoisse pendant les mois qui ont précédé. Puis alors, en plus, j'étais encore en charge de gros dossiers, lourds. Et j'ai eu cette espèce de réflexe consistant à dire, j'ai un chrono là devant moi, j'ai une course contre la montre, il faut absolument que je sorte tous mes dossiers avant de partir, ce qui était impossible. Mais j'ai mis espèce de bouchée double pour terminer un certain nombre de gros. Il y en a d'autres, je pouvais pas parce qu'il y avait des investigations à l'étranger qui étaient pas rentrées. Donc j'ai forcé. Alors est-ce que c'est le chant du cygne avant de je sais pas, mais le jour où j'ai arrêté, alors oui effectivement là, c'était le vide absolu.
Ouais.
Mais ça va peut-être vous surprendre, mais là je respire. Voilà,
vous avez tourné
la
page.
J'ai du temps. Ah oui, complètement.
Alors, pour nous rafraîchir la mémoire sur votre longue carrière, je vais juste faire un petit jeu, c'est citer très rapidement quelques-unes des affaires, des nombreuses affaires que vous avez menées. Affaire Robert Boulin, affaire Urba, du nom d'un bureau d'études lié au Parti Socialiste, affaire Caroline Dickinson, affaire Elf, affaire des frégates de Taïwan, affaire Claire Stream, affaire Karachi, affaire Big Malion Sarkozy, affaire Jérôme Kerviel, affaire Cahuzac, affaire des époux Balkany, affaire du dopage dans l'athlétisme, etc., etc. La liste donne le tournis. Ça ressemble à un catalogue des coulisses les plus sombres de la Ve République. Vous êtes généralement très discret. Votre parole est rare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout dire?
Je peux tout dire sur ce que j'ai vécu. C'est important. C'est important de montrer les difficultés que j'ai pu rencontrer. Dans une période, j'irais, de transition, où la justice, elle a un peu sorti du Moyen-Âge, en quelque sorte. C'est-à-dire que elle a longtemps été soumise, en tout cas dans cet aspect-là, dans ses enquêtes politico-financières, elle remontait jamais. Et là, elle a commencé à remonter. Alors, je suis pas tout seul, hein, d'autres l'ont fait aussi durant cette période, puis l'Italie l'a fait aussi, l'Espagne aussi, il y a des juges en Espagne qui l'ont fait. Donc, je me suis trouvé pris dans ce mouvement qui, aujourd'hui, a abouti, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice, elle est émancipée complètement.
Alors, nous allons revenir ensemble toute cette semaine sur votre parcours pour mieux comprendre comment vous travaillez. J'ai très envie que vous nous expliquiez comment le juge Van Ruymbeek enquête concrètement. Et puis, avoir aussi votre vision sur le rôle parfois controversé du juge d'instruction qu'on dit à la fois si solitaire et si puissant. Mais commençons par le commencement. C'est-à-dire votre vocation. Vous êtes né dans une famille qui a le culte du service public, c'est ça?
Oui.
Votre père est haut fonctionnaire?
Oui. En plus, mon père, c'est un peu la statue du commandeur, parce qu'il a fait la guerre, il est parti, il a été prisonnier en Espagne, il a débarqué dans le sud de la France, il était communiste, donc il a des idées très, très marquées. Alors, il a rendu sa carte au moment de Budapest, en 56, quand il a compris que le communisme, c'était aussi une forme de dictature soviétique à l'époque. Mais il avait ce côté service public, et lui-même d'ailleurs était haut fonctionnaire. Donc j'ai été élevé dans ce sillage, en quelque sorte.
Et donc vous êtes au lycée, vous passez le bac, et là, que se passe-t-il pour vous?
D'abord, je suis dans une section littéraire, ce qui plaisait moyennement à mon père, parce qu'à l'époque, il fallait faire des maths pour assurer son avenir. Donc, il m'a mis pratiquement au pied du mur. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac littéraire? Décide-toi. Aujourd'hui, on poursuit les études, etc. Mais à l'époque, c'était pas ça. Donc je suis évidemment dans le service public, presque inconsciemment, puisque c'est la culture maison. Mais je veux pas être le fils d'eux. Donc, je m'interdis la fonction publique ou la haute fonction publique. Je sais pas si j'aurais pu le faire. Il aurait fallu passer l'ENA, etc., ce qu'avait fait mon père. Et donc, comme ça, je me dis, mais la justice m'intéresse. Et je rêve à ce moment-là d'être juge de paix. En province, voilà.
Juge de paix, c'est-à-dire juge d'instance,
oui.
Des petits litiges entre particuliers.
Oui, en province.
C'est ça qui vous attire, en province.
Oui,
oui, parce que vous avez une enfance parisienne, vous êtes l'aîné de la famille.
Oui, je suis l'aîné, et quand j'ai eu 13 ans, mes parents avaient un pavillon en banlieue. Ils ont vendu le pavillon quand j'avais 13 ans, et ils sont venus s'installer dans un immeuble des années 60 à Paris, 60-70. Et là, j'ai énormément souffert de la perte du jardin. Voilà. Il y avait un petit jardin, c'était pas... Mais là, je me retrouve entre quatre murs et j'aspire aussi à ça, à partir de... Oui, je suis bobo avant l'heure, vous voyez, je suis écolo, etc. Donc l'idée, voilà, c'est ça qui fait que cette conjonction fait que... Et puis la justice m'intéresse, voilà.
Donc en tout cas, donc, ça veut dire côté magistrat et non pas côté avocat, culture du service public.
Absolument.
Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que donc, votre père vous pose la question, vous lui répondez, et là...
Il est plus que réticent en réalité, parce que... Les juges à l'époque, d'abord l'école de la magistrature, ça faisait petite école à côté de l'ENA, donc en gros choisissait la facilité. Et puis alors surtout, il a cette phrase que je dirais qui assassine, mais qui en même temps va me donner énormément de force avec le recul, c'est me dire c'est bien. Il faut quand même que tu saches une chose, c'est que les magistrats qui ont condamné les résistants pendant la guerre, ce sont les mêmes que ceux qui ont condamné les collabos à la libération. Ce sont des lâches. Voilà, en gros, voilà ce qu'il me dit. Je me prends ça, c'est quand même assez violent, mais ça va me donner une espèce de force. Je ne lui réponds pas, parce que mon père, quelqu'un d'assez forte personnalité, bon, et un peu à l'ancienne, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne discute pas, mais sur le fond, il comprend très bien d'ailleurs, ok, mais j'y vais quand même. J'y vais, et je vais avoir à cœur, finalement, je pense, quelque part, de ne pas lui donner raison. Alors, en disant, c'est une réalité, il avait raison, je ne pouvais pas dire le contraire. Mais je suis pas comme ça, voilà.
En quelque
sorte. Je crois que ça m'a... Vous savez, on vous trempe dans le chaudron, là, et tac, ça vous fait réagir. Et c'est presque vital, vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas trahir ça par la suite.
Vous allez vous construire contre cette idée reçue, en tout cas pas reçue, mais cette idée qu'a votre père de la non-indépendance des juges.
Inconsciemment, oui. Mais je vais toujours rester intransigeant. D'abord, on n'intervient pas dans mes enquêtes. Deuxièmement, il n'y a pas de privilège. Il y a égalité pour tout le monde. Et voilà, c'est ça qui va me porter et qui va me guider. Et d'ailleurs, mon père n'avait pas tort, parce que je peux vous dire que des freins, des entraves, j'en ai connu... Justement, en exerçant cette fonction.
Alors, vous faites des études de droit, vous intégrez l'ENM, École nationale de la magistrature à Bordeaux, puis, jeune magistrat tout frais et moulu de l'école, votre premier poste, c'est à Caen, dans le Calvados, en Normandie, à l'instruction. Donc, ce n'est pas juge de paix ou juge d'instance, dès le départ, vous êtes à l'instruction. Et là, c'est peut-être ce qu'on appelle le destin, vous allez vous retrouver bientôt au cœur d'une affaire énorme.
Oui.
On est en 1979 à Caen.
Voilà, c'est ça. En 79, est créé à Caen un poste financier, un poste spécialisé pour la cour d'appel, parce que il y a des gros dossiers qui, dans tout le ressort de la cour, ne sortent pas. Parce que dans un petit tribunal, celui qui est juge d'instruction, celui ou celle qui est juge d'instruction, le matin, il fait des divorces, l'après-midi, il y a au tribunal correctionnel. Donc voilà, il fait un peu tout. Et il y a quelques très gros dossiers qui nécessitent un investissement effectivement beaucoup plus lourd, qui stagnent. Voilà. Et donc il y a une loi qui est intervenue en 1975 créant un juge d'instruction spécialisé dans chaque cour d'appel.
Mais les affaires financières, ça vous tente plus que les crimes de sang à l'instruction? Ou c'est une opportunité de carrière? C'est quoi?
Attends, les crimes de sang... J'étais à des autopsies. Fallait le faire, fallait. C'est pas ce qui me passionnait le plus. Bon, là, oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ce poste va m'intéresser, donc je me dis il y a un défi à relever. Il y a pas fou là. Il y a pas d'autres candidats, donc j'ai aucun mérite à l'obtenir. Mais donc je vais récupérer comme ça un certain nombre de gros dossiers sur trois départements, puisqu'il y a l'Orne, la Manche et le et le Calvados.
Y compris une affaire énorme, donc un scandale politico-financier qui va lui-même se transformer en affaire encore plus sensible avec la mort d'un ministre, Robert Boulin. En 1979, le ministre de Giscard sera retrouvé mort dans un étang en forêt de Rambouillet. Justement, commençons par la fin, c'est-à-dire, la mort du ministre. Dans une lettre qu'il laisse pour expliquer sa mort, Robert Boulin vous désigne, avec d'autres, mais vous désigne, vous, juge d'instruction qui enquêtait sur une affaire financière, vous désigne comme étant responsable de sa mort. Il écrit notamment « Un juge ambitieux, haineux envers la société, considérant a priori un ministre comme prévaricateur, et tout cela aboutit, dit-il, pour ma part, à audition, campagne de presse et suspicion. L'homme responsable de sa mort, parmi d'autres, dit-il, c'est vous. »
Absolument.
Et vous avez 27 ans.
J'ai 27 ans. J'apprends ça aux informations, en regardant le Trésor. Et là, c'est... Imaginez, c'est vraiment le couperet qui tombe, c'est... Le... tout s'écroule. Voilà, tout s'écroule. Je ne peux pas répondre. D'abord, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Et en plus, un mort, qu'est-ce que vous voulez dire à un mort ? Respect pour le mort. On peut pas... Et il y a cette lettre qui est assassine à mon égard, mais cette lettre, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que il m'accuse. Moi, je suis... Bon, très bien. Il me perçoit probablement comme un petit juge rouge. Vous savez, les petits juges de l'époque qui commencent à s'intéresser aux ministres, etc. Mais j'essaie de me mettre à la place de celui qui écrit cette lettre. Bon, je suis en collusion avec quelqu'un qui est présenté comme un escroc, entre parenthèses, qui est un ami à lui, auquel il a soi-disant acheté un terrain, il a fait construire sa maison, un promoteur, bon, qui est effectivement dans le collimateur de la justice, et avec un ministre de la justice qui n'est pas intervenu, et si je comprends bien, pour le compte duquel je réagis.
Oui, alors attendez, il faut revenir quand même sur cette affaire des terrains dramatuels. Au départ, c'est un dossier, une escroquerie, des terrains vendus deux fois par un escroc. C'est pour cette raison que le dossier arrive dans votre cabinet d'instruction. Et puis, une partie de ces terrains dramatuels sera revendue donc au ministre Robert Boulin, qui pourra y faire construire une villa. Et il y a, un soupçon d'escroquerie dans ce dossier. Et vous enquêtez là-dessus.
Suite à une plainte des notaires. C'est pas un monsieur farfelu qui a déposé plainte. Le dossier, c'est ça. Les notaires déposent plainte parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Henri Tournet. Henri Tournet qui a vendu deux fois les mêmes terrains. Voilà. Et la deuxième fois, d'ailleurs, quand il revend la deuxième fois les terrains, il le vend à une société suisse dont il n'est que le... C'est lui qui est derrière, en réalité. Et c'est cette société suisse qui va vendre 2 hectares des 30 et quelques hectares, je ne sais plus combien il y en avait, à Ramatuel, qui va vendre ces 2 hectares à son ami Robert Boulin, dans des conditions a priori suspectes. Voilà, a priori.
Très tôt apparaît le nom, finalement, du ministre de Valéry Giscard d'Estaing, Robert Boulin. Et là, vous, juge d'instruction, vous vous dites, eh bien, il faut que j'enquête. Et le parquet vous laisse faire?
Le parquet, d'abord, je ne lui laisse pas le choix. Bon, s'ils veulent intervenir, ils n'ont qu'à intervenir, mais on va s'expliquer. Bon, ils n'interviendront pas. D'ailleurs, ils ne sauront pas, je ne les tiendrai pas au courant de tout ce que je fais. Vous savez, quand vous avez ces dossiers-là à l'époque, le parquet, c'est quand même le relais du pouvoir. Bon, si vous enquêtez dans une affaire dans laquelle il y a le nom d'un ministre en exercice, bon, dont le collègue est garde des Sceaux, qui appartient au même parti que ceux qui nous gouvernent, bon, je ne vais pas travailler la main dans la main avec le parquet. On est d'accord. Donc, c'est un travail seul, solitaire. Donc, ce travail, je vais le faire. À la limite, le parquet, ça m'est égal. Et bien sûr que quand j'hérite du dossier, au tout début, le dossier a déjà 4 ans. Mais il végète depuis 4 ans, puisque le juge sur place n'a pas le temps ni l'énergie pour démonter une affaire qui est quand même très, très compliquée. Et le nom de Robert Boulin apparaît dès le départ, mais avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il connaît bien celui qui est présenté comme un escroc. Très bien, il lui a acheté 2 hectares. Il est d'ailleurs le seul à avoir pu construire sa maison sur cet ensemble de parcelles. Voilà. Mais celui qui m'intéresse, c'est celui sur lequel je vais enquêter, c'est évidemment le promoteur, Henri Tournet.
L'escroc.
Voilà. Donc, je vais perquisitionner chez lui. Je vais le mettre en examen. À l'époque, on l'inculpait, donc je l'inculpe. Et je l'incarcère pendant 3 semaines. Et d'ailleurs, de la maison d'arrêt, il va écrire à Robert Boulin. Je revois encore la lettre passée. Mon cher Robert, en gros, ne me laisse pas. Tu connais mon honnêteté, etc. Viens témoigner. Et c'est comme ça que va naître la suspicion que peut avoir Robert Boulin à mon écart. Mais là, il va basculer quelque part dans le fantasme. Mais vous savez, quand on fantasme, on part toujours de quelque chose de vrai et on l'interprète, on le surinterprète. Et à la fin, on arrive à quelque chose de faux. Aujourd'hui, on appellerait ça du complotisme. Bon, mais voilà. Donc, Tournet va s'expliquer. Et notamment, il va expliquer, parce qu'il l'avait écrit dans une lettre que j'ai trouvée à son domicile, qu'il a adressée à Robert Boulin, il parle de don du terrain. D'après Tournet, le terrain qu'a acheté Robert Boulin, en réalité, c'est un don déguisé. Il a conservé le talon d'un chéquier, il avait écrit cette lettre que je découvre à son domicile, envoyée à Robert Boulin, où il parle de don. Donc, voilà. Donc, moi, je m'intéresse principalement à Henri Tournet, mais je vais quand même aller vérifier si... Ben, il est dans le dossier, je ne vais pas faire abstraction de cet
du
acte.
Ministre.
Ben non, j'aurais pu me contenter d'Henri Tournet... Terminé, c'était pas d'ailleurs pas facile, c'est le gros morceau, mais je m'interroge aussi et je vais aller faire quelques investigations, notamment sur les comptes bancaires du ministre.
Et vous ne songez pas à votre carrière à ce moment-là?
Mais je m'en tape de ma carrière, j'en ai absolument rien à faire. Je veux aller au bout, c'est tout, sinon je vais faire autre chose. Voilà, donc je pars comme ça. Alors là, on est au mois de juin, je vais libérer juin 79. Alors, la mort, pour situer les choses, la mort de Robert Boulin se situe en octobre. Fin octobre, je crois, 30 octobre. Et donc, pendant l'été, je vais faire des vérifications. Alors, je ne vais pas faire que ça. Je vais entendre Tournet à plusieurs reprises. Je vais le confronter avec les acquéreurs normands. Parce qu'il y a des acquéreurs normands qui ont payé, mais qui n'ont pas leur terrain, puisqu'il les a revendus entre-temps à sa société suisse. Alors, vous allez dire, comment est-ce qu'on peut revendre 2 fois les mêmes terrains? Moi, je suis incapable de le faire, mais il y en a qui sont capables de faire ça. Bon, donc voilà, donc je vais faire plein de choses. Et parmi ces choses, il y a, je m'intéresse aussi aux conditions d'achat, entre guillemets, du terrain de Robert Boulin.
Alors,
ce que manifestement, il ne va pas accepter. Il ne comprend pas.
Avec la mort du ministre, c'est en quelque sorte votre baptême du feu de vous retrouver au cœur d'une machine à laver médiatico-judiciaire.
Alors, on ne peut pas parler de machine à laver médiatico-judiciaire parce que quand Robert Boulin meurt, je crois qu'il y a eu 3 articles de presse. Aujourd'hui, comparé à l'affaire Fillon ou aux affaires Sarkozy, etc., c'est pas 3 articles de presse qu'il y a, hein, si on fait le total. Donc, c'est pas... Elle n'est pas très médiatisée, l'affaire. Il y a quelques articles qui sortent. Mais à l'époque, vous savez, il n'y a pas cette caisse de résonance qu'on a aujourd'hui quand il y a des affaires. On est à une autre époque. Voilà. Mais il réalise que ces explications futures, parce que je ne l'ai jamais vu, j'ai des éléments qui vont infirmer et qui vont tendre à démontrer qu'en réalité, cet achat qu'il fait n'est pas un achat. Chose qu'il conteste, qu'il va contester dans sa lettre, mais je vais accumuler progressivement des éléments tendant à montrer le contraire. J'ai pas de preuve absolue, parce que vous savez, un juge d'instruction, il cherche des éléments, c'est vrai, c'est pas vrai, et il construit son dossier. Donc je suis dans cette phase de construction, en tout cas à son égard. En même temps, j'avance beaucoup sur Henri Tournet, sur les acquéreurs normands, pour essayer de comprendre comment il a pu vendre 2 fois les terrains avec les notaires, etc. Donc tout ça avance bien. Et je vais le découvrir après sa mort, c'est que Robert Moulin va voir le garde des Sceaux. Il va voir Alain Perfitte. Je l'ai lu, ça a été écrit. Bon, il va le voir. Mais pour savoir ce que je peux lui reprocher et où en est l'enquête. Mais si vous réfléchissez aujourd'hui, vous imaginez François Fillon allant voir le ministre de la Justice pour savoir ce que lui veut le juge, ce que les juges ont dans le dossier. C'est aberrant. Vous voyez le décalage qu'on peut avoir. Et s'il va voir le ministre de la Justice, c'est qu'il attend de lui, quelque part, peut-être un frein, peut-être, je ne sais pas, mais il aurait pu m'envoyer un avocat, il aurait pu qui aurait pu m'expliquer un certain nombre de choses. Moi, je suis ouvert à la discussion. D'ailleurs, j'ai pas pris de position. J'essaye de savoir ce qui s'est passé.
En tout cas, c'est votre baptême du feu d'une grosse affaire politico-financière. Oui. Ensuite, vous serez nommé au parquet à Caen et vous allez découvrir que le procureur général de Caen portera à votre encontre ce jugement dans votre dossier et cette annotation. En parlant de vous, ce magistrat témoigne de haute vertu morale et en particulier d'une indépendance affirmée. C'est ce trait de caractère que je redoute pour lui, car il peut le conduire à des positions extrêmes ou excessives, voire à des résultats fâcheux. Et ça va vous poursuivre toute votre carrière et nous verrons demain comment ce trait de caractère, une farouche indépendance, va encore, pendant la suite de votre parcours, vous jouer des tours, Renaud van Ruymbeeck.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Éric Lemasson avec Renaud van Ruymbeeck. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.